Avertissement du rap Grande Culture numéro 12 du 16 juillet 2021, lu par Isabelle Fréchette. Cet avertissement traite de la chrysomèle des racines du maïs, de pucerons du soya, de différentes maladies du soya, c'est-à-dire de maladies foliaires, de phytophthora et de la pourriture à sclérote. Et l'avertissement se termine sur le vert gris occidental des haricots dans la culture du maïs. Chrysomèle des racines du maïs, verse, évaluation des dommages aux racines et dépistage des adultes. Dans certains champs de maïs grains ou en silage, des dommages racinaires et de la verse causés par des larves de chrysomèle des racines du maïs sont actuellement observés. Les cas rapportés au RAP sont situés au centre du Québec, dans les RMRC de l'Érable, d'Arbasca et de Bécancour, et en Montérégie, dans la MRC des Jardins de Napierville. La plupart des chrysomèles étaient au stade larvaire, visibles dans le sol autour des racines, mais quelques adultes ont aussi commencé à émerger par endroits. Dans tous les cas, les champs affectés sont en maïs non BT chrysomèle et au moins en deuxième année de maïs. Une évaluation des dommages aux racines dans les champs à risque et un dépistage des adultes permettront d'anticiper les pertes, de mieux identifier les champs qui devraient être récoltés en priorité et de déterminer la stratégie à adopter pour l'année prochaine. Évaluation des dommages aux racines. Elle permet de quantifier les dommages et de valider si l'averse est bien causée par la chrysomèle des racines du maïs. En effet, l'averse peut avoir plusieurs autres causes. L'évaluation devrait être faite lorsque les dommages aux racines sont terminés, c'est-à-dire lorsque les larves ont terminé de s'alimenter et qu'on commence à voir des adultes sur les plants de maïs. Dans des zones représentatives du champ, récoltez au moins 15 mottes racinaires à l'aide d'une pelle. Lavez les racines pour éliminer le plus de terre afin de bien voir les dommages. Une échelle de dommages aux nœuds racinaires, développée aux États-Unis, permet de quantifier les dommages racinaires de chaque plant. L'échelle s'étend de 0, c'est-à-dire aucun dommage, à 3, c'est-à-dire 3 nœuds complètement affectés. Dans l'avertissement, vous trouverez un montage photo qui présente deux exemples. Selon une étude américaine, une cote moyenne de 0,25 correspond à un début de dommage économique dans le maïs et chaque nœud endommagé correspond à une perte de rendement de 15% approximativement. Par contre, ces données n'ont pas été validées au Québec. Si le champ est en maïs BT chrysomèle et que des dommages aux racines sont constatés, cela pourrait signifier que l'insecte est possiblement résistant à la technologie BT utilisée. La résistance est suspectée dans les cas suivants. Une cote de dommage supérieure à 1 pour des hybrides munis d'un seul caractère BT chrysomèle et supérieure à 0,5 pour des hybrides munis de plus d'un caractère BT chrysomèle. Notez qu'il serait normal d'observer un faible pourcentage de plants avec dommage. Par exemple, dans la plupart des cas, 5% des grains semés sont un refuge non BT intégré dans le sac de semences. Pour connaître les technologies offrant une protection contre la chrysomèle des racines du maïs, vous avez un lien pour accéder au tableau Maïs BT disponible au Canada. Fait à noter, le maïs BT chrysomèle agit spécifiquement contre les larves de l'insecte. Des adultes de la chrysomèle, provenant d'autres champs par exemple, pourraient être observés dans un champ en maïs BT chrysomèle. Si vous soupçonnez de la résistance au BT chrysomèle dans votre champ, contactez votre fournisseur de semences. Dépistage des adultes. Il permet de déterminer si les populations présentes dans le champ sont suffisamment élevées pour justifier une méthode de lutte, telle que la rotation, l'année suivante. Le dépistage consiste à installer 4 pièges collants jaunes dans le champ et de les changer chaque semaine ou chaque 2 semaines, environ de la mi-juillet à la fin août. Vous avez dans l'avertissement un lien pour accéder au protocole de piégeage utilisé par le RAP. Les chrysomèles des racines du maïs adulte s'alimentent parfois de feuillage, de panicules et de soies fraîches. Dans de rares cas, l'alimentation sur les soies peut affecter la pollinisation du maïs. Notez qu'aucun insecticide n'est homologué contre les adultes de la chrysomèle des racines du maïs dans le maïs grain ou en silage. La rotation avec une culture autre que le maïs est le moyen de lutte le plus efficace contre la chrysomèle des racines du maïs. Si cela n'est pas possible, l'utilisation d'un hybride de maïs BT chrysomèle peut être envisagée. Par contre, il faut utiliser judicieusement cette technologie car l'insecte peut développer rapidement une résistance aux protéines BT. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder à la fiche technique « Stratégie de prévention contre la résistance de la chrysomèle des racines du maïs au maïs BT ». Dépassement du seuil d'alerte pour le puceron du soya dans certains champs en Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Le puceron du soya est encore observé dans plusieurs champs de soya à travers la province. Le seuil d'alerte de 250 pucerons par plant en moyenne a été atteint dans 9 des 68 champs dépistés par le RAP. Ce seuil n'est pas un seuil d'intervention. Il indique qu'il faut suivre les champs de près et tenir compte de plusieurs facteurs avant d'intervenir. Le dépistage est recommandé, particulièrement dans Lanaudière, les Laurentides, incluant les Hautes-Laurentides et la Montérégie. Les autres régions semblent pour le moment épargnées de ces fortes infestations. En plus de la quantité de pucerons, le stade de croissance du soya, le niveau de stress subi par la culture et la présence d'ennemis naturels sont des éléments à prendre en compte pour juger de la pertinence d'un traitement. Certains cultivars tolèrent beaucoup mieux la présence de pucerons que d'autres. Pour en savoir plus sur la stratégie d'intervention recommandée au Québec contre le puceron du soya, consultez l'avertissement numéro 11 du 9 juillet dernier ou la vidéo disponible dans l'avertissement. Les maladies foliaires du soya les plus fréquentes au Québec. Il n'est pas inhabituel d'observer des taches sur les feuilles de soya en cette période de l'année. Les trois maladies foliaires les plus fréquentes au Québec causent rarement des pertes de rendement, même en présence de beaucoup de taches. Voici quelques informations sur ces trois maladies. Brûlure bactérienne. L'infection initiale se présente par des taches jaunes sur la surface supérieure des feuilles qui deviennent brunes à noires avec la progression de la maladie. Les taches sont entourées d'un halo jaune et les symptômes apparaissent d'abord sur les feuilles les plus jeunes. C'est une maladie qui est favorisée par un temps frais et humide. Elle peut affecter la qualité des grains. L'utilisation de cultivars tolérants, de semences certifiées, la rotation avec du maïs ou des céréales et le labour des résidus sont des méthodes qui permettent de prévenir la maladie. Taches brunes. Les taches ne sont pas toujours entourées d'un halo jaune et les symptômes apparaissent d'abord sur les feuilles du bas. Les taches se trouvent sur les surfaces supérieures et inférieures des feuilles. L'infection initiale se présente par des lésions pourpres à brun et non jaunes, comme dans le cas de la graisse bactérienne. Les feuilles infectées jaunissent rapidement et tombent. L'utilisation de cultivars tolérants, de semences certifiées, la rotation avec du maïs et ou des céréales et le labour des résidus sont des méthodes adoptées pour prévenir la maladie. Le contrôle de certaines mauvaises herbes ou plantes hôtes, comme l'abutilon, la luzerne et d'autres légumineuses, peut aussi aider à réduire la survie et la propagation de cette maladie. Mildiou. Au début de l'infestation, des taches jaunes apparaissent sur la surface supérieure des feuilles et vis-à-vis de ces taches, sur l'autre face, se trouve un duvet grisâtre à rougeâtre. La maladie est favorisée par une humidité élevée et une température oscillant entre 20 et 22 degrés Celsius. Elle peut affecter la qualité des grains. L'utilisation de cultivars tolérants, de semences certifiées ou traitées avec un fongicide et la rotation avec du maïs ou du blé sont des méthodes adoptées pour prévenir la maladie. La pourriture phytophthoréenne du soya, premier symptôme observé. La pourriture phytophthoréenne est une maladie qui peut entraîner une perte de rendement importante dans la culture du soya. Les premiers symptômes peuvent être observés à cette période de l'année. La maladie se manifeste par un flétrissement, un brunissement et un dépérissement des plants, mais les feuilles restent attachées aux plants. Les racines de plants infectés sont souvent moins développées avec la présence d'une pourriture brune. La maladie se présente dans des endroits mal drainés ou pendant des périodes de pluie abondantes. Les fongicides foliaires ne sont pas efficaces contre la pourriture phytophthoréenne. Les traitements de semences fongicides protègent la semence et les plantules que durant une période de 2 à 3 semaines après le semis, alors que le plant peut être infecté à tous les stades de sa croissance, de la germination jusqu'à la maturité. L'utilisation de cultivars de soya possédant des gènes de résistance est la solution la plus efficace contre cette maladie. Par contre, les gènes de résistance du soya doivent être adaptés à la souche de Phytophthora sojae présente dans un champ. Au Canada, il est possible de se procurer des cultivars de soya avec les gènes de résistance 1A, 1C, 1K, 3A ou 6. Un projet de recherche de l'Université Laval a révélé que certains gènes, c'est-à-dire 1A et 1C, ne sont plus efficaces pour le Québec, bien qu'ils soient toujours utilisés. Le choix du cultivar de soya devrait donc se faire en fonction de la sensibilité des souches de la maladie dans le champ aux gènes de résistance 1K, 3A ou 6. Pour en savoir plus, consultez le document « La pourriture phytophthoréenne du soya, l'importance du choix du cultivar ». La pourriture asclérote dans le soya. Le dépistage des apothécies qui produisent des spores infectieuses se poursuit dans une trentaine de champs dans le cadre d'un projet de recherche et des dépistages durables grandes cultures. Jusqu'à maintenant, la présence d'apothécies a été signalée dans seulement 4 des 36 champs dépistés. Ces champs sont situés en Capitale-Nationale, au centre du Québec et en Chaudière-Appalaches. Les rangs de ces champs sont fermés. L'appréciation du risque doit être faite pour chaque champ. Le développement d'apothécies et des spores infectieuses est conditionnel à plusieurs facteurs. Voici différents éléments à considérer. Les conditions météorologiques, la pluie, l'humidité de l'air et les températures fraîches, c'est-à-dire 25 degrés et moins sous la canopée, favorisent la maladie. L'humidité du sol dans les premiers 5 cm favorise la germination des sclérotes. La fermeture des rangs et la luxuriance du feuillage ont un impact majeur sur la fructification du champignon et le risque d'infection des plants. L'exposition directe au soleil, l'aération et l'assèchement nuisent à la fructification du champignon, à l'infection des plants et au développement de la maladie. L'historique du champ. Si le champ a été fortement infesté par le passé, les risques d'infection sont plus élevés. Le cultivar. Aucun cultivar n'offre une résistance totale contre la maladie, mais plusieurs cultivars offrent une certaine protection. Consultez le guide RGCQ et votre conseiller agricole pour connaître le niveau de sensibilité des cultivars. Un suivi serré de ces paramètres peut permettre d'éviter un traitement fongicide inutile ou effectué à un moment inopportun. Il est effectivement inapproprié d'utiliser un fongicide lorsque le risque est faible, puisque l'effet protecteur du fongicide s'estompe généralement 1 à 2 semaines après l'application. Aussi, l'application de fongicides foliaires n'a pas d'impact sur la viabilité des sclérotes du sol et n'affecte donc pas leur germination. Le stade du soya doit également être pris en compte. Au-delà du stade R4, c'est-à-dire lorsqu'on en trouve à l'un des 4 nœuds supérieurs une gousse d'environ 20 mm de long, une application de fongicide ne devrait pas être envisagée. Selon Damon Smith de l'Université du Wisconsin, il n'a pas été possible de démontrer que les applications de fongicides effectuées après le stade R4 du soya se traduisent par un bénéfice économique. Pour en savoir plus sur la question de la rentabilité des traitements fongicides, veuillez vous référer à la fiche technique « Avons-nous besoin de fongicides pour le soya au Québec? » Vert gris occidental des haricots, papillons capturés et première masse d'œufs observée. Capture des adultes. Les captures de papillons sont encore très faibles cette semaine dans les pièges suivis par les dépisteurs qui contribuent aux RAB grandes cultures. Dans l'avertissement, vous trouvez un lien pour accéder à tous les résultats. Dès le début des captures, il n'est pas rare d'observer les premières masses d'œufs dans les champs, comme ça a été le cas cette semaine à Clarendon, en Outaouais. Dépistage des œufs et des jeunes larves. Les masses d'œufs sont habituellement pondues sur la face supérieure des 3 ou 4 feuilles du haut du plant, sur la feuille étendard ou sur des feuilles qui ont encore un port dressé. Mais il faut aussi porter attention à tout le plant pour ne pas rater de masses d'œufs ou de jeunes larves. Ces dernières sont très petites et pourraient aussi être trouvées sur les croix. Comme les premiers papillons ont été capturés, les champs à risque, c'est-à-dire les champs situés dans des zones sableuses, ayant un historique de dommages ou présentant une croissance inégale des plants, devraient être dépistés à partir du stade VT, c'est-à-dire lorsque la croix est présente dans le cornet. Des croix sont déjà sorties dans certains champs au sud de la province. La ponte étant étalée sur plusieurs semaines, le dépistage des masses d'œufs et des jeunes larves peut débuter dans les champs à risque et se prolonger durant les 3 à 4 semaines suivant la sortie des croix. Pendant cette période, il est recommandé de dépister les champs tous les 5 à 7 jours. Le dépistage consiste à noter le nombre de plants porteurs de masses d'œufs et de larves en examinant le feuillage de 10 plants consécutifs sur le même rang, au minimum à 10 endroits différents, pour un total de 100 plants examinés par champ et par semaine. Les masses d'œufs sont facilement repérables en regardant le feuillage à contre-jour. Il faut aussi porter attention à la couleur des œufs, qui sont blancs lors de la ponte et deviennent progressivement mauves environ 48 heures avant l'éclosion. Ennemis naturels. Plusieurs ennemis naturels peuvent s'attaquer aux œufs et aux jeunes larves de VGOH, tels que les larves de chrysope, les punaises prédatrices, les coccinelles. Attention, les œufs de VGOH peuvent être confondus avec des œufs de punaises pentatomides, qui sont des insectes bénéfiques. Toutefois, les œufs de VGOH ressemblent à des petits oursins, alors que ceux des punaises sont en forme de baril portant une couronne. Les œufs des deux espèces changent de couleur au cours du temps. Les œufs peuvent également être parasités par de minuscules guêpes parasitoïdes. Au champ, les masses d'œufs parasitées paraissent plutôt grises ou noires que mauves, et à la loupe, on peut apercevoir qu'ils sont troués à la suite de l'émergence du parasite. On peut également voir ces parasites se déplacer à la surface des masses d'œufs. Une loupe peut être nécessaire pour repérer ces ennemis naturels, ainsi que les punaises du genre Aureus qui sont de très petite taille. Il est primordial de bien faire le dépistage des ennemis naturels car les traitements insecticides pourraient les tuer alors qu'ils exercent une certaine protection du maïs. Seuil économique et fenêtre d'intervention. En Ontario et au Michigan, pour le maïs grain, le seuil d'intervention est un seuil cumulatif de 5 % de plants présentant des masses d'œufs et des jeunes larves. Si la première semaine de dépistage, 2 % de plants sont affectés et que lors du second dépistage, 3 % des plants le sont, le seuil cumulatif de 5 % est atteint au second dépistage. Dans certains États américains, le seuil est de 8 % lorsque les ennemis naturels sont présents. Si un traitement ciblant les larves doit être envisagé, il devrait être réalisé 5 à 7 jours suivant l'éclosion de la majorité des œufs puisque les pondes sont réparties sur plusieurs semaines. L'objectif est d'atteindre les jeunes larves avant qu'elles ne rejoignent les soies, car ensuite, le traitement n'aura pas d'effet. S'il n'y a pas encore de soie, il est donc inutile de traiter. Dans l'avertissement, vous trouverez plusieurs photos pour vous aider à identifier les masses d'œufs, les larves et les ennemis naturels. Une vidéo sur le sujet est également intégrée à l'avertissement. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.